France Inter,
franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de cette journée spéciale de France Inter en partenariat avec l'INA, du 22 mars au 13 mai, de Nanterre au Quartier Latin, les débuts de mai 68.
Il est clair que le mouvement du 22 mars ne veut rester à l'université, mais qu'il veut s'étendre en dehors de l'université, c'est-à-dire des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie.
Ans d'histoire. Le 22 mars 1968, il y aura demain 40 ans, dans le grand hall de la faculté de Nanterre, un étudiant en sociologie muni d'un haut-parleur annonçait un meeting qui devait se tenir à 17h. Pour protester contre l'arrestation à Paris d'un étudiant de Nanterre qui avait jeté des boulons sur la vitrine de l'American Express, Daniel Cohn-Bendit, que l'on vient d'entendre, proposait à ses camarades d'occuper la tour de la faculté réservée à l'administration. Vers 20h30, passant par une porte laissée ouverte pour les femmes de ménage, 150 étudiants pénétraient dans le bâtiment et y fondaient le mouvement du 22 mars. C'est ainsi qu'est née à Nanterre une révolte qui allait s'étendre à toute la société française et faire vaciller la Ve République. Dans une faculté, construite 4 ans plus tôt, et qui, depuis la rentrée universitaire de 1967, était déjà la plus turbulente de France.
À 10 km de Paris, sur un ancien terrain militaire de 32 hectares, se dresse le domaine universitaire de Nanterre. Une faculté des lettres, une annexe de la faculté de droit de Paris. Depuis novembre, grèves et manifestations se succèdent. Il y a un peu plus d'un mois, les membres de l'Association des résidents de la cité universitaire, l'ARCUN, ont abrogé le règlement intérieur et décidé que désormais, aucune entrave ne limiterait la circulation dans les pavillons des filles.
Moi, je suis à l'Union des étudiants communistes depuis à peu près un mois.
Qu'est-ce que vous voulez faire ?
J'en sais rien. La révolution.
Oui, je appartiens à un groupe anarchiste.
Tout ce que je peux vous dire. Vous habitez la résidence ?
Oui, j'habite la résidence. Pourquoi ? Vous avez des rapports avec certains flics, non ?
Demandez le courrier du Vietnam.
Philippe Artière, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était en 1967 à Nanterre, l'épicentre d'un tremblement de terre qui, 6 mois plus tard, allait faire vaciller la Ve République. Vous le rappelez dans un livre, 68, une histoire collective qui a été publiée à la Découverte. Alors, une histoire collective, certes, mais qui commence avec l'agitation étudiante. On le voit, d'ailleurs, on l'a entendu, qui commençait dès 67. Qu'est-ce que les étudiants de cette année 67-68 pouvaient revendiquer ? Quelles sont les raisons de l'agitation qui allait ensuite se développer dans le monde politique et social ?
Alors, vous faites bien de signaler que c'est en périphérie que les choses se passent d'abord. Dans cette toute jeune faculté, et non université, hein, dépend de l'Université de Paris, cette jeune, toute fraîche, toute neuve.
Construite en 64.
Construite en 64.
Et pas finie d'ailleurs à l'époque.
Pas finie. Les murs à peine peints ont été très vite recouverts de graffitis, comme on sait. C'est dans cette faculté que les choses commencent. Elles commencent dans un lieu où vivent des étudiants. C'est-à-dire, c'est à la fois un lieu de savoir, d'enseignement, mais aussi un lieu de vie. Et c'est bien autour de revendications qui sont des revendications de vie quotidienne, à savoir la circulation des jeunes filles et des jeunes garçons dans les résidences universitaires, qu'une agitation se développe. Elle se développe très tôt par des petites actions, mais aussi parce que Nanterre est une facultés où il y a, comme dans les universités françaises, une politisation importante de la jeunesse.
Une jeunesse d'ailleurs de Nanterre et des autres universités, des autres facultés, contre la guerre du Vietnam à ce moment-là. Il y a des comités Vietnam national qui s'installent un peu partout.
Alors on peut dire effectivement qu'une partie de cette jeunesse a connu la guerre d'Algérie par leurs parents, mais aussi par des frères qui sont partis dans le contingent. Donc il y a une proximité du conflit, de cette guerre dite coloniale. Et là où vont vraiment s'armer politiquement tous ces jeunes gens, c'est contre le conflit vietnamien. C'est contre cette guerre dite impérialiste, hein, et je mets des guillemets en tant qu'historien, évidemment, de cette guerre du Vietnam qui n'en finit pas, et de mobiliser les étudiants à travers des manifestations, à travers des actions, comme celle qui a été évoquée contre l'agence bancaire américaine.
Des étudiants de plus en plus nombreux dans toute la France. Vous le rappelez, il y a eu cette explosion démographique de l'après-guerre qui fait que 15, 16, 20 ans après, eh bien, le nombre des étudiants a été multiplié par 10 entre les années 50 et 1968, en très peu de temps. D'où d'ailleurs la création de ces nouvelles facultés autour de Paris. Et puis aussi des mécontentements qui sont liés au manque de moyens, au manque de professeurs et même également à des méthodes d'enseignement que les étudiants jugent inadaptés.
Le surnom de Nanterre, c'était une sorte d'usine à gaver les oies, selon ces étudiants qui se constitueront dans le groupe du 22 mars. Effectivement, on a une montée sur un plan démographique. La société française est une société jeune, avec, si l'on peut dire, un appareil d'enseignement extrêmement vieux. Et cette espèce d'énergie de la jeunesse qui vient percuter cette institution universitaire ancienne comme le cours magistral, c'est l'enseignant qui arrive et qui, de bout en bout, tient la parole. Et on sait combien pour des gens et des historiens comme Michel de Certeau, et bien précisément, ce qui va se passer en 68, c'est qu'on va renverser ce pouvoir de la parole, et la parole va se mettre à circuler.
Et notamment justement à Nanterre, où le 22 mars 1968, et bien lorsqu'après l'arrestation d'un étudiant de Nanterre qui avait manifesté pour la paix au Vietnam contre les Américains, je crois même qu'il avait bombardé à coups de boulon la vitrine de l'American Express à Paris, et bien Daniel Cohn-Bendit, au cours d'un meeting, proposait aux étudiants d'occuper un des bâtiments de Nanterre. Écoutez, c'était lui, donc, Daniel Cohn-Bendit, il y a 40 ans, à un jour près, le 22 mars 1968.
Pour que l'opinion publique parle de ce qui s'est passé, pour que l'opinion publique soit alarmée, nous proposons de ce soir une occupation d'un bâtiment de la faculté de Nanterre, où nous resterions toute la nuit pour déterminer notre volonté que les victimes de la répression policière, que ce soit Xavier Langlade de la faculté de Nanterre, que ce soit vous, membre du comité Vietnam National, ou que ce soit les étudiants de Caen, ou que ce soit les étudiants de Nantes, nous sommes désormais décidés à mener la lutte pour que tous ceux qui sont victimes de la répression soient libérés.
Et c'était Daniel Cohn-Bendit le 22 mars. Ils allaient quelques minutes plus tard occuper, le 22 mars 68, ils allaient occuper la tour centrale de Nanterre où se trouvait l'administration, et de la fonder un mouvement, le mouvement du 22 mars, dont on dit parfois que c'est lui au fond, mai 68, que c'est par lui qu'a commencé mai 68.
Le mouvement du 22 mars a la spécificité de ne pas être une organisation syndicale, de ne pas être un groupe politique, et d'être la rencontre de plusieurs tendances qui ont, disons, été ensemble, se sont comme associées sur ce campus de Nanterre qui est loin de Paris, donc où les gens vivent, où beaucoup d'échanges se font. Il y a une tendance libertaire très forte du groupe Noir et Rouge. Mais pas seulement. Il y a ce qu'on a appelé les enragés de Nanterre. Hein. Les enragés, ce sont de jeunes gens fortement inspirés par les thèses situationnistes de Debord et d'autres, et qui, dans un esprit très surréaliste, aiment à taquiner le pouvoir là où ça fait mal. Il y a bien sûr aussi les trotskistes qui sont très présents.
La JCR, oui.
Et la JCR, Jeunesse communiste révolutionnaire, qui, elle, reprend toute une tradition de lutte.
Et puis c'est à l'époque aussi, il y a les maoïstes, hein, il y a l'union des jeunesses marxistes-léninistes, c'est-à-dire c'est l'époque où Mao Tse-tung fait sa révolution culturelle en Chine, tout ça peut jouer. Et en fait, ce que vous voulez dire peut-être, Philippe Artier, c'est que le mouvement du 22 mars rassemble des mouvements gauchistes qui s'entre-déchiraient jusque-là. C'est ça qui a quand même compté.
Ces mouvements gauchistes, leur occupation principale, c'était de s'affronter avec les groupes d'extrême droite tels que Occident. C'était de manifester contre la guerre du Vietnam, parfois collectivement, mais quelquefois en ordre séparé. Et ce sont aussi des groupes, et c'est ça qui est important à Nanterre, qui sont très ouverts vers l'international. Il faut rappeler le contexte international hein, de cette jeunesse qui va descendre dans la rue. C'est aux Pays-Bas les Provos. Et ce n'est pas un hasard si Daniel Cohn-Bendit est un jeune Allemand. Mmh. Il y a là une Europe contestataire qu'on ne rappellera jamais assez,
avec
les Italiens,
mais...
les Allemands. Donc une circulation. Et dès à Pâques, il y avait eu des rencontres de différents militants, notamment en Italie.
Allemand, d'ailleurs, on le lui rappellera, Daniel Cohn-Bendit, puisque c'est un article de l'Humanité qui n'aimait pas trop ces gauchistes en général, qui le traité d'anarchiste allemand, la formule sera reprise d'ailleurs d'une manière différente dans les jours qui suivent. Alors ce mouvement, Cohn-Bendit d'ailleurs est connu à ce moment-là, il n'est pas connu en France, mais il est connu à Nanterre, il s'est fait, il est devenu une espèce de héros le jour où en janvier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Missoff, était venu inaugurer la piscine en lui disant « Mais que pensez-vous, monsieur Missoff, du problème sexuel des étudiants ?» Et Missoff lui avait répondu « Écoutez, si vous avez des problèmes sexuels, plongez-vous dans la piscine. » Et Daniel Cohn-Bendit, avec son don de la provocation, il disait « Ah voilà, c'est exactement les propos d'un ministre fasciste ». Alors ce mouvement du 22 mars est à l'origine d'une agitation permanente pendant tout le mois de mars, avril. Les cours sont interrompus, les meetings se multiplient, surtout en faveur du Vietnam. On rédige des tracts, dont l'un d'ailleurs avait donné la recette des cocktails Molotov, ce qui va mettre évidemment la direction de Nanterre en colère.
Oui, en fait, c'est tout le fonctionnement de la faculté de Nanterre qui peu à peu est contesté avec des actions. Il faut rappeler des modalités très précises d'assemblée générale, de commission. On se réunit et donc on casse tout un emploi du temps, et aussi une occupation de l'espace. Ce n'est pas pour rien que le groupe du 22 mars occupe cette tour administrative. C'est parce que là, il y a vraiment l'intention de montrer qui sont les véritables résidents de la faculté. Eh bien, ce sont les étudiants en lutte.
Jusqu'à ce que le doyen de la faculté se fâche et que le 3 mai, il prenne une décision qui allait avoir des conséquences considérables. France Inter, Pierre Charpentier.
Dans une heure, la faculté de Nanterre sera fermée jusqu'à nouvel avis. Le doyen Grappin a pris cette décision à la suite de toute une série d'incidents qui avaient commencé dès la rentrée de novembre.
À partir de demain, vendredi 3 mai à 9h, et jusqu'à nouvel ordre, les cours et travaux pratiques sont suspendus à la faculté.
Réaction du mouvement du 22 mars, c'est-à-dire des étudiants dits enragés, ils appellent à venir, avec l'UNEF, à venir manifester dans la cour de la Sorbonne lundi matin.
Sur une autre vie débouchée, casser du flic et du bourgeois à coups de mots et de pavés, trembler de peur, vibrer de joie, choisir de vaincre ou de crever. Était-ce mal, était-ce bon? Demandez-le à Robert de Sorbonne.
Et c'est Tête Scotto, Sorbonne 68. Alors effectivement, Robert de Sorbon, ce 3 mai 68, a dû se retourner dans sa tombe parce que depuis le Moyen-Âge, on n'avait pratiquement jamais fermé la Sorbonne, puisque la Sorbonne était fermée le jour même où elle était occupée par les étudiants. Hein, il a dû être également surpris d'y voir entrer la police. Ça, c'est évidemment quelque chose d'assez rare dans l'histoire de la Sorbonne depuis le Moyen-Âge, Philippe Artière.
La police entre dans la Sorbonne, et la police a, dans cette fin des années 60, pour beaucoup, très mauvaise réputation. Il faut se souvenir qu'elle a été, en 62, très active, enfin responsable du massacre des Algériens à Paris, lors de la manifestation du FLN du 17 octobre 61. Et donc, la police entre dans la Sorbonne, et Sharon en 62. Donc, on a ce moment tout à fait singulier où, d'une part, le pouvoir a fermé la faculté de Nanterre. Donc, finalement, exclut les militants vers Paris. Donc, contagion du mouvement à Paris, occupation de la Sorbonne, et immédiatement, la police entre.
Et là, et les étudiants sont dans la rue.
Et les étudiants sont dans la rue.
Le même jour, ils passent de Nanterre à la Sorbonne et de Sorbonne dans la rue.
Et surtout, jusqu'alors, on était dans un mouvement plutôt calme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu énormément de coups. Là, la deuxième erreur du pouvoir, c'est de très vite envoyer la police, et la police avec son bidule, cette fameuse matraque. Et ce qui se passe et ce qui devait arriver arrive. Il y a des échauffourées, d'autant plus que la Sorbonne, la cour de la Sorbonne, était le lieu d'une sorte de meeting, de rassemblement de ce que les historiens appellent la fine fleur du gauchisme. Alors, il y avait toutes les organisations, les trotskistes, les maoïstes, les anars. Donc, ce n'est pas un public tout à fait neutre sur lequel la police tombe.
Hein? Mais alors justement, il y a cette espèce de cycle, Philippe Artière, qui fait qu'on manifeste pour faire libérer les manifestants de la veille, et puis ces manifestations entraînent une répression qui entraîne de nouvelles arrestations. Il y a cette espèce de cycle répression-manifestation qui ne va plus en finir, avec des manifestations presque quotidiennes entre le 3 et le 10 mai au Quartier Latin, et d'ailleurs qui ont de plus en plus d'importance. Comment expliquer que la sympathie de l'opinion publique aille de plus en plus, en tout cas au début de ce mouvement de mai, aux étudiants? On se doute bien que ceux qui suivent les manifestants ne sont pas tous trotskistes, maoïstes ou situationnistes.
Alors, sympathie, parce que le 4 mai, les jeunes gens qui sont arrêtés comparaissent devant le tribunal, et c'est un dimanche. Alors évidemment, ça fait très 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 mauvaise presse, cette histoire. Ça fait très tribunal d'exception. On ouvre le tribunal pour juger les jeunes gens de la Sorbonne. Ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point, ce sont des jeunes, des enfants. Ouais. Le petit Danny Cohn-Bendit incarne assez bien ce côté bambin. Et quand on le voit, les photographes l'ont bien compris, quand on le voit face au CRS, il y a de l'ordre du jeu, il y a de l'ordre du rire. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut prendre en compte, qu'on a bien du mal aujourd'hui à percevoir, mais les historiens des sensibilités le montrent. Hein. Il y a énormément de joie, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les corps, etc., y compris avec les corps policiers. Bon, alors il y a cette sympathie-là, et puis il y a le fait que finalement, cette jeunesse, elle dit aussi un ras-le-bol par rapport à une société qui est complètement serré, complètement fermé. Faut-il rappeler le pouvoir du père de famille dans la famille française d'alors ?
Là, on est au-delà,
etc., etc. Donc, on est vraiment, je crois, dans ça s'incarne là, quelque chose s'incarne à travers ces jeunes gens dans la rue.
Et qui réclament donc la libération de leurs camarades au cours de manifestations quotidiennes, jusqu'à celle du 10 mai 1968, commencée place d'Enfer Rochereau, et qu'elle est terminé dans la nuit, rue Gay-Lussac.
À 18h30, il y a 30 000 manifestants place d'Enfer Rochereau. Aux étudiants se sont joints des lycéens. Le dispositif, cependant, est renforcé à la Sorbonne. Des milliers de policiers quadrillent systématiquement les alentours. À d'Enfer, un mot d'ordre a été lancé: occuper le Quartier Latin. Les manifestants sont décidés à ne pas céder le terrain avant d'avoir obtenu satisfaction.
savez, je suis juste au pied de la barricade là et il y a une fumée extraordinaire car les étudiants ont été dispersés par les grenades lacrymogènes. Ils ont les CRS ont essayé d'enfoncer cette barricade alors que les étudiants reviennent vers leur barricade maintenant et que les CRS descendent le boulevard Saint-Michel. Il est absolument irrespirable ici dans cette rue Gay-Lussac et j'ai vraiment les yeux qui me piquent.
Nous sommes des gauchistes, des aventuristes, marxistes, léninistes, guévaristes ou trotskistes. Nous sommes des anards, nous en avons marre de voir vos flicards quadriller nos boulevards. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des juifs et des allemands. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des juifs allemands. C'est dans vos prisons, c'est dans vos bonjons que nous écrirons nos plus belles chansons. Vous n'avez rien vu, vous n'y avez pas cru, vous l'aurez voulu, ça se passe dans la rue. Nous sommes beaucoup, nous sommes partout, ce n'est qu'un début, la lutte continue, nous sommes tous.
Et la rue, ben la rue, c'était le 10 mai 1968, la rue Gay-Lussac, hein, que chantait Dominique Grange, la pègre. C'était la manifestation la plus violente de tout 68, d'ailleurs de tous ces événements de mai 68, Philippe Artière.
Oui, manifestation violente avec plus de 180 voitures brûlées, endommagées, avec énormément de blessés, hein, 380 blessés et 500 personnes interpellées. Donc on est vraiment là au cœur du conflit parisien. Il faut toujours rappeler
qu'il y en a eu d'autres
et que toute la province s'agitait et que le dépavement n'est pas seulement une pratique parisienne. Mmh. La rue Gay-Lussac n'a plus de pavé. Et la nuit, dans cette nuit quasiment d'été, eh bien, collectivement, on dépave. On dépave pour rejouer aussi une histoire. C'est ça qui est très important. La barricade, c'est faire à la fois l'évocation de 1871 et de la Commune, bien évidemment.
C'est plus symbolique d'ailleurs qu'efficace, c'est Daniel Cobendit qui disait « Tout le monde faisait n'importe quoi sans savoir. Dans la rue Gay-Lussac, il y avait 10 barricades les unes derrière les autres. Ça n'avait aucune signification militaire, mais on avait envie de faire des barricades, tout simplement. »
Oui, oui, la barricade, là, elle est vraiment symbolique et c'est une manière de s'écrire dans l'histoire. Ça me paraît très important, de même que c'était aussi très important que dans à la Sorbonne, il y ait des historiens qui se mettent à collecter les tracts. Hein, ça, c'est vraiment aussi un geste très fort par rapport au passé.
Alors jusque-là, Philippe Artière, le mouvement est resté presque exclusivement étudiant. Il n'y a pas de politique dedans, il n'y a pas d'ailleurs même de syndicats, sauf évidemment les syndicats étudiants et enseignants, l'UNEF de Jacques Sauvageau et le SNESUP d'Alain Gesmard, mais ça n'a pas bougé. C'est le rêve de Cohn-Bendit, tel qu'il l'exprimait le 22 mars, on l'a entendu, de rejoindre les ouvriers, ne s'est pas réalisé. C'est ce qui se passera pourtant le 13 mai. Hein. Ce jour-là, les syndicats prennent le train en marche et lançaient un mot d'ordre de grève générale qui allait déboucher sur la plus importante manifestation de mai 68.
Plusieurs centaines de milliers de Parisiens ont défilé cet après-midi entre la République et la place d'Enfer Rochereau pour protester contre la façon dont les forces de police ont récemment rétabli l'ordre dans les rues de Paris à la suite des manifestations d'étudiants. Les manifestants, étudiants et ouvriers, ont scandé des slogans critiquant certains aspects de la politique du gouvernement et demandant la démission de certains ministres.
Je suis actuellement sur la place d'Enfer Rochereau, juste devant le Lion de Belfort. En tête du cortège, les étudiants et les enseignants, très nettement. Qui, d'ailleurs, la tête du cortège était marquée par une pancarte sur laquelle était écrit « Étudiants, enseignants, travailleurs, solidaires ».
Alors c'était le 13 mai 68, pour la première fois on voyait effectivement des syndicats et même quelques personnalités politiques aux côtés des étudiants. Là c'est un basculement, la révolte n'est plus seulement étudiante, c'était un peu ce que souhaitait dès le départ Daniel Cohn-Bendit, entendu cette espèce de vieux rêve de rassembler les revendications étudiantes et ouvrières, Philippe Artière.
vieux rêve, mais vraie réalité que celle de la grève ouvrière.
Parce qu'elle ne s'arrêtera pas pendant plusieurs jours.
Pendant plusieurs jours, grève générale. Alors là encore, il faut essayer de comprendre ce que ça signifie un pays où il y a 7 millions d'employés et de travailleurs qui arrêtent, qui cessent le travail. L'historienne Michèle Perrot a l'habitude de dire que c'est un moment où effectivement il se dit des choses totalement inédites. Il se fait des rencontres inédites puisque le bruit des machines s'arrête et on sort. On sort dans la cour de l'usine, on se met à parler et parfois on se met à rencontrer l'étudiant. Où l'étudiant vient devant l'usine ou alors dans les cortèges de manifestations.
Et oui, ça joue un rôle. Souvent, c'est un peu à contre-cœur, par exemple, que la CGT laisse les usines ouvertes. Ce n'est pas très fréquent et c'est un peu en traînant des pieds.
Alors vous avez raison de souligner combien le rapport des syndicats traditionnels, à savoir le syndicat communiste CGT, a bien du mal à prendre le train de 68.
Et pour lui donner un grand coup de frein, d'ailleurs.
Pour lui donner un grand coup de frein, et puis aussi pour toujours essayer de modérer les choses et de reprendre le dessus sur ce mouvement qui échappe dans ses formes, qui échappe aussi dans ses revendications, parce que ce ne sont plus seulement des revendications des conditions de travail, mais aussi de vie, tout simplement.
Et qui échappe au pouvoir. C'est De Gaulle qui dira « la situation est insaisissable ». Il faut rappeler qu'au début, Georges Pompidou, Premier ministre, était en Afghanistan jusqu'au 10 mai, que De Gaulle n'a pas voulu se manifester pour ne pas donner le sentiment qu'il attache de l'importance au mouvement avant le 24 mai, et puis que ce mouvement donc va continuer encore après que les étudiants n'en soient plus les seuls acteurs jusqu'au 29 mai ou 30 mai, le départ à Baden, la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, on a l'impression d'ailleurs que seuls les étudiants restent en lice, c'est eux qui ont commencé le mouvement de mai 68, et en juin, il n'y a pratiquement plus qu'eux qui le continuent.
Oui, si ce n'est que les artistes et un certain nombre d'autres acteurs de la société vont continuer le mouvement, que ce soit, pensons au Festival de Cannes, pensons à Avignon, où il se passe là des choses importantes qui vont peut-être, non pas prolonger, mais orienter un petit peu différemment le mouvement. Et le général de Gaulle, dans cette histoire, qui est, dont Cohn-Bendit est au fond une sorte de double rieur, eh bien, et dont les radios, notamment, cherchent à construire cette figure de double. Eh bien, ce général de Gaulle, il sort très affaibli, parce qu'il faut rappeler que la jeunesse, même de droite, est peu gaulliste. Ça, c'est une donnée importante, et que cette espèce de vacance du pouvoir avec son départ en Allemagne, encore en Allemagne, est de ce point de vue-là vraiment symptomatique.
Ça, c'est une autre histoire que nous rappellerons d'ailleurs sûrement dans les semaines qui viennent sur la suite de mai 68. Vous nous avez parlé, Philippe Artière, nous, des débuts étudiants, mais le livre que vous avez coordonné, écrit avec Michel Zancari-Fournel, 68, une histoire collective, remonte aux origines encore plus lointaines dans les années 60 de mai 68, et puis se termine et va même au-delà de mai 68. Donc je répète, 68, une histoire collective, un livre publié aux éditions La Découverte. Vous êtes également l'auteur d'un livre pour les jeunes lecteurs à partir de 13 ans, 1968, année politique, publié aux éditions Thierry Magnier dans la collection Troisième Culture. Vous avez pu entendre des archives de l'INA, dont certaines jusque-là inédites, mai 68, les images de la télévision d'Hugues-Nancy, disponibles en DVD aux éditions de l'INA, mai 68 à Les Beaux Jours avec Daniel Cohn-Bendit, publié dans la collection Les Grandes Heures, et mai 68, images sonores de Caroline Cartier dans la collection INA Mémoire Vive, deux CD publiés aux éditions INA et Radio France. Vous pouvez retrouver toutes ces références ainsi que celles de nombreux autres ouvrages qui paraissent actuellement à l'occasion des 40 ans de mai 68 par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Rémi Quincet, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Florence D'Artois, Cathy Cauchois et Sophie Gilry. Une réalisation de Anne Kobilac.